Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez sur France Culture à 11h. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Luc Alazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Deuxième volet de notre série consacrée à quelques portraits de villes rebelles à travers le monde à l'approche de ce second tour des municipales, après nous être intéressés hier à Jérusalem, avant de rejoindre Diyarbakır en Turquie, demain Bogota. Tournons-nous aujourd'hui vers Chicago et San Francisco, deux villes emblématiques, deux visages de l'Amérique dirigées depuis peu par deux femmes afro-américaines.
Tout d'abord, je voudrais remercier les gens qui sont venus aujourd'hui pour honorer la mémoire de George Floyd. Vous savez, mon cœur est lourd. Oui, je suis la mère, mais je suis une femme noire d'abord.
Donald Trump's comment last night was profoundly dangerous.
Le message de Donald Trump hier soir était profondément dangereux. Et nous devons garder une solidarité forte et dire qu'il était totalement inacceptable, quelle que soit la personne qui l'énonce. Nous voyons le jeu qu'il joue, parce qu'il est tellement transparent et qu'il n'est pas très bon à ce jeu. Il veut donner l'impression d'un échec des leaders locaux démocrates pour renforcer sa base. Son but est de polariser et de déstabiliser les pouvoirs locaux et d'aggraver les problèmes racistes. Et nous ne pouvons absolument pas le laisser faire. Je vais coder ce que je veux vraiment dire à Donald Trump. Ces deux mots, ça commence par un F et ça finit par un U.
It's two words. It begins with F and it ends with U.
Voilà un code assez transparent. C'est en tant que leader politique, mais également en tant que femme noire, que London Breed, maire de San Francisco depuis 2018, et Lori Lightfoot, élue à Chicago il y a tout juste un an également, ont réagi ces dernières semaines aux mobilisations contre les violences policières. Les deux démocrates ont encouragé les manifestants, tout en prenant soin de rappeler les règles de distanciation sociale qu'elles se sont appliquées à mettre en œuvre face au Covid. London Breed, en particulier, peut-être s'est dessiné ces derniers mois une stature nouvelle, déclarant avant tout le monde l'état d'urgence sanitaire dans sa ville de San Francisco. Sa gestion de l'épidémie a été saluée par l'ensemble de la classe politique locale, en particulier pour ses mesures de relogement provisoire des sans-abri, même si tout n'est pas réglé, loin s'en faut. Alors au-delà du symbole que représente leur élection, que peuvent London Breed et Lori Lightfoot pour endiguer l'accroissement des inégalités à San Francisco et à Chicago? Comment l'épidémie de coronavirus, puis le mouvement de contestation contre les violences racistes, comment ces deux choses sont-elles venues renouveler les défis déjà nombreux auxquels elles sont confrontées? Et de quelle marge de manœuvre aussi disposent-elles dans les États-Unis de Donald Trump qui rejette tout ce qu'elles incarnent précisément? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Sonia Lehmann-Frisch. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, professeur à l'université Paris-Nanterre. Vous aviez écrit il y a 2 ans maintenant Sociologie de San Francisco, qui est paru à La Découverte. Avec nous également, et j'allais dire pour nous parler de Chicago, parce qu'on va faire des allers-retours entre San Francisco et Chicago, c'est Laurence Gervais. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur de civilisation américaine à Paris-Nanterre également. Vous aviez écrit La privatisation de Chicago, idéologie de genre, construction sociale, identité et espace urbain. Vous préparez un ouvrage sur la question du sexe dans la ville, mais ça sera pour dans quelques mois. D'abord, peut-être réaction à ces deux extraits que nous venons de diffuser, parce que il y a eu effectivement cette conférence de presse, notamment de Lori Lightfoot, qui s'en est pris vigoureusement à Donald Trump, qui a eu ce message assez dur, assez cru aussi à l'égard de Donald Trump en lui adressant ce message, hein, qui commence par F et qui finit par You. On comprend tous de quoi il s'agit. On voit bien que dans le contexte actuel, je vais commencer avec vous, Laurence Gervais, contexte où de dénonciation des violences policières à l'égard des Noirs, Lori Lightfoot est en train de prendre une dimension qui dépasse la ville de Chicago. On est bien au-delà des enjeux locaux. Là, Laurence Gervais.
Oui, tout à fait. De toute façon, Lori Lightfoot a un passé de lutte contre les violences policières, hein, et elle a été élue notamment sur la promesse de régler un certain nombre de problèmes, il s'agisse des inégalités ou des violences policières à Chicago. Par ailleurs, effectivement, elle revendique le fait d'être un leader noir. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne pratique pas la langue des bois. Mmh.
Elle revendique d'être un leader noir et elle se revendique aussi comme homosexuelle. C'est important parce que elle incarne finalement, Lori Lightfoot, ce phénomène de convergence des luttes, ce qu'on appelle aux États-Unis l'intersectionnalité, c'est-à-dire cette idée selon laquelle on peut être victime de plusieurs niveaux de domination, de discrimination, en raison de sa couleur, de son identité de genre, de son orientation sexuelle. C'est important pour comprendre son engagement politique à elle en particulier. C'est un élément qui doit se replacer dans une logique plus globale.
Oui, je pense. Ouais. Je pense que le fait qu'elle soit ouvertement homosexuelle est quelque chose qui est symboliquement très fort. Elle a été élue notamment avec le soutien de la communauté LGBTQ à Chicago. Elle est très consciente également des inégalités sociales. Donc, effectivement, on est dans une intersectionnalité. Elle est tout à fait sur tous les fronts, à la fois sur les fronts des inégalités raciales qui ont toujours été très fortes à Chicago, qui sont, c'est pas une nouveauté malheureusement, et des inégalités sociales, et tout ça se croise, et également la fragilité, la vulnérabilité de la communauté LGBTQ, notamment les personnes trans de couleur.
Sonia Lehmann-Frisch, du côté de San Francisco, London Breed, elle est aussi l'incarnation de tout ce que Trump n'est pas. C'est une femme, elle est démocrate, elle est noire, elle incarne tout autant l'anti-Trump, Sonia Lehmann-Frisch.
Oui, absolument. Elle incarne l'anti-Trump aussi parce qu'elle est maire de San Francisco. San Francisco, c'est vraiment les valeurs que Trump et l'ensemble de la classe politique républicaine rejettent en soi. Il faut quand même rappeler que London Breed n'est ni la première femme de maire de San Francisco, ni la première personne noire de San Francisco, sachant aussi que San Francisco a déjà élu un maire chinois-américain, celui à qui elle a succédé, et que bien sûr un conseiller municipal très célèbre a beaucoup œuvré pour les droits gays, c'est Harvey Milk. Autrement dit, tout ça pour dire que l'arrivée de London Breed à San Francisco, dans une ville extrêmement diverse, et qui pose son originalité, sa différence et son acceptation, son ouverture à la diversité sexuelle, ethnique, raciale, etc., n'était pas en soi un argument de campagne. Et je dois même rajouter que, contrairement à ce que j'entends du cas de la maire actuelle de Chicago, London Breed, sur l'échiquier politique de San Francisco, qui est une ville ultra progressiste, hein, tout le monde est démocrate depuis bien longtemps, elle est plutôt une démocrate modérée. Et elle a été élue contre un candidat, lui, progressiste.
Oui, et ce qu'il faut aussi noter du côté de San Francisco avec London Breed, c'est, on parlait d'opposition avec Donald Trump, en particulier sur la question de la crise sanitaire. Elle a été la première maire d'une grande ville à mettre en place le confinement. Qu'est-ce qui l'a poussée à le faire d'ailleurs? D'où vient cette exemplarité? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette avance sur le reste du pays.
Alors, on peut faire plusieurs hypothèses. L'une des hypothèses, c'est que San Francisco est l'une des villes qui possède le plus grand Chinatown des États-Unis, après New York, et que San Francisco est en réalité en lien direct avec Wuhan, par exemple. Mmh. Et le quartier de San Francisco, en lien direct, c'est-à-dire il y a un vol direct entre Wuhan et San Francisco. Et le quartier de Chinatown a été l'un des premiers à se mobiliser contre l'épidémie, justement en lien avec toutes les informations qu'ils pouvaient obtenir de personnes qu'ils connaissaient et qui étaient issues de Chine et puis de la province de Wuhan. Et on sait aussi que la ville de San Francisco, de par sa tolérance raciale, n'a pas eu du tout les réactions anti-chinoises qui ont pu se déclarer ailleurs. Et les autorités sanitaires ont pu prêter une oreille beaucoup plus attentive aux inquiétudes qui ont été très rapidement exprimées au cœur de Chinatown. Mmh. Par exemple, on peut souligner le fait que Chinatown est le premier quartier où les habitants ont commencé à se promener avec des masques. Vous entriez dans Chinatown et vous trouviez face à des personnes portant des masques en toutes circonstances et dans l'espace public, alors que dans le reste de la ville, on était loin encore d'avoir intégré cette préoccupation qui est devenue d'ailleurs obligatoire. Hein. Ça a été posé comme une obligation de porter des masques dans la ville. Donc ça, c'est un premier argument. Et d'autres arguments aussi qui peuvent expliquer ça, c'est une certaine habitude de la gestion de crise à San Francisco. D'une part, c'est une ville, comme vous le savez, comme tout le monde sait, qui est propice au tremblement de terre. Et il y en a eu un terrible en 1989. Donc l'ensemble des départements urbains, municipaux autour de la gestion de crise sont préparés à gérer de telles crises. Et puis il y a peut-être aussi une troisième hypothèse, c'est la place du secteur médical et puis des biotech en général à San Francisco, avec la localisation d'une des plus prestigieuses universités de médecine, USF, qui a joué aussi là un rôle très fort dans la prévention de la crise.
Laurence Gervais, Sonia Lehmann, Frisch nous rappelait à juste titre que London Breen n'était pas la première femme maire de San Francisco, ni même premier maire noir. C'est la même chose du côté de Chicago. Si on regarde les choses, on a eu déjà une maire noire dès 1979 du côté de Chicago. C'était pas si courant, en particulier il y a une quarantaine d'années, d'autant que la ville a une réputation, disons, assez virile, pour pas dire carrément brutale. Peut-être qu'on reviendra sur la question de la criminalité. Il y a des représentations qui sont là, qui sont malheureusement persistantes, qui voudrait que un homme soit plus à même de faire preuve d'autorité dans un tel contexte. Évidemment, tout cela, c'est des représentations, mais quand même, il se trouve qu'il y a 40 ans, plus de 40 ans déjà, on avait élu une femme à ce poste. Comment vous expliquez là aussi, peut-être, que si tôt, au fond, les habitants de Chicago ont fait confiance à une femme pour diriger les affaires de la ville, en faisant fi justement de ces clichés?
Alors oui, d'une part, ce n'est pas la première femme maire. D'autre part, ça n'est pas non plus la première maire noire. Et avant Jane Byrne, que vous avez évoquée, il y a eu Harold Washington, qui a été maire de Chicago entre 83 et 87, et dont finalement Laurie Lightfoot est peut-être plus proche dans sa lutte contre les inégalités, dans sa meilleure représentation des minorités ethniques, des Africains-Américains, mais aussi des Latinos, dans sa lutte pour une plus grande transparence aussi, parce que Chicago est aussi The Windy City, qui ne fait pas référence seulement au vent fort qui souffle sur la ville, mais aussi au nombre de ces politiques et au bruit qu'ils font, et puis au clientélisme et à un certain nombre d'éléments liés à la corruption. Donc Harold Washington s'était battu contre ça, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le programme de Laurie Lightfoot. Donc je pense qu'elle est assez proche de Washington en ça. Il n'y a pas eu, après Jane Byrne, il n'y a pas eu d'autres femmes. Donc effectivement, il y a quand même aussi ce côté un peu viril du Midwest et qui est notamment personnalisé par d'autres figures de mères très emblématiques à Chicago, comme Dale et Père et Dale et Fils, qui ont mis en place cette machine politique et ce clientélisme très fort à Chicago pendant des années. Surtout Dale et Père, mais d'une autre façon, avec la néolibéralisation de la gestion de la ville, Dale et Fils a aussi permis, avec contrats publics-privés donnés à certains entrepreneurs plutôt qu'à d'autres, continuer cette tradition clientéliste. Donc Lightfoot est aussi contre cela, elle est aussi dans une campagne pour plus de transparence dans l'attribution des contrats, dans l'attribution des marchés.
Ouais, on va y venir justement, et je voudrais qu'on s'attarde en particulier aujourd'hui sur les questions locales. Il y a déjà fort à faire. Il faut qu'on parle de logement, il faut qu'on parle de réforme de dispositifs policiers du côté de Chicago. Mais il y a quand même une question qui est très prégnante aujourd'hui du côté des États-Unis, qui est celle de qui accompagnera Joe Biden à l'élection présidentielle. C'est quelque chose dont on parle absolument tous les jours en ce moment. A priori, Joe Biden devrait choisir précisément une femme afro-américaine. Alors, il y a plusieurs noms qui circulent. On n'a pas parlé aussi, par exemple, de la maire d'Atlanta. Mais est-ce que vous voyez les deux maires dont nous parlons ce matin, celle de Chicago et celle de San Francisco, comme des candidates potentielles pour former un ticket avec Joe Biden? On va commencer avec vous, Sonia Lehmann-Sprich.
Alors, je ne suis pas dans les petits papiers.
Bien sûr,
encore,
bien sûr, mais est-ce que ça vous paraît plausible? Je veux dire, est-ce que c'est un profil qui conviendrait?
Ben, pourquoi pas, ne serait-ce que pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que à San Francisco, enfin comment dire, sur la scène nationale, London Breen, et vous avez évoqué le fait que sa gestion de la crise de la pandémie l'a vraiment mis au premier plan, au premier plan national, y compris contre la manière dont a réagi Donald Trump. Mais sur la scène locale, comme je disais tout à l'heure, elle est loin d'être sur l'échiquier politique parmi les plus progressistes. Ou autrement dit, elle est effectivement plus dans la mouvance des démocrates modérés et notamment de Joe Biden que d'autres. Juste pour vous donner une idée de la couleur politique locale aux primaires de mars cette année là, Joe Biden n'a fait que 22% et il était assez loin derrière Bernie Sanders qui a fait lui 32%. Parmi les démocrates. Donc, autrement dit, encore une fois, London Breed est plus proche de Joe Biden, quasi minoritaire, en tout cas pas forcément parmi les plus progressistes, et contesté sur un certain nombre de sujets pour cette raison-là à San Francisco.
Donc dans la même ligne,
ce serait envisageable.
Ouais, dans la même ligne, plus au centre, et en même temps, ça ne veut pas dire que c'est forcément un atout, parce que précisément, et je me tourne vers vous, Laurence Gervais, peut-être que Joe Biden a intérêt à prendre une colistière un peu plus à gauche. Est-ce que Lori Lightfoot, pour le coup, maire de Chicago, correspondrait à ce profil?
Alors, je vais vous faire la même réponse que Sonia Lehmann-Sprich. Je ne suis pas non plus dans les petits papiers, je ne peux pas...
Oh, c'est pas ce qu'on attend de vous. Non, mais c'est en termes de profil, hein, encore une fois, et de positionnement sur l'échiquier politique.
Alors, elle a un programme sans doute plus progressiste que celui de London Breed. Et effectivement, elle peut correspondre à un profil qui soit... qui permettent d'équilibrer le ticket. Mais voilà, je ne peux pas...
Vous ne pouvez pas en dire plus. Alors, regardons, Laurence Gervais, les enjeux locaux, parce que il faut peut-être rappeler que Lori Lightfoot avait pris un certain nombre d'engagements sur la question des violences policières à l'égard des Noirs lors de sa campagne. Elle avait même annoncé une réforme de la police locale. Où est-ce qu'on en est de tout cela? Quel bilan on peut tirer de son action? Alors, soit, évidemment, c'était il y a un tout petit peu plus d'un an, donc c'est encore assez frais, mais est-ce qu'elle a déjà amorcé la transformation ou pas encore, Laurence Gervais?
Alors, d'une part, elle est arrivée effectivement dans un environnement où la recrudescence de la criminalité, surtout envers les Noirs, depuis 2016, est énorme. Hein. Août 2016 a été le mois le plus meurtrier depuis 20 ans. Rien que dans les 6 premiers mois de l'année 2018, Chicago a enregistré 254 meurtres. Donc il y a vraiment eu une recrudescence. 80% des victimes de violences policières sont des Afro-Américains. Et depuis les manifestations du dernier week-end de mai, c'est pareil, les chiffres sont énormes. Et elle avait effectivement... axer une partie de son programme sur une réforme de la police. C'est quelqu'un qui était déjà dans le conseil d'administration sous Rahm Emanuel. Elle avait été nommée en 2015 à la présidence du conseil d'administration de la police de Chicago.
Rahm Emanuel, je rappelle, hein, pour les auditeurs, pardon de vous couper, mais c'est important pour que tout le monde suive, c'est son prédécesseur, Rahm Emanuel, ancien chef de cabinet de Barack Obama, qui a été élu en 2011, qui a été reconduit en 2015, qui a fini son mandat d'ailleurs avec une popularité qui était pas tout à fait celle avec laquelle il avait commencé, mais enfin voilà, son prédécesseur, donc Rahm Emanuel.
Voilà. Les problèmes rencontrés par Rahm Emanuel étaient plutôt liés à la grève des enseignants, donc pas forcément à cette réforme de la police. Lori Lightfoot était dans ce conseil d'administration de la police et formulait des recommandations pour des mesures disciplinaires en cas de faute professionnelle des policiers. Donc, elle était déjà en place. Elle a été critiquée d'ailleurs parfois pour ne pas avoir été assez sévère. Mais le fait est qu'elle a été élue sur la promesse de réformer les services de police de la ville. Elle a rouvert une enquête après être entré en fonction pour déterminer s'il y avait eu des violations des droits civils associées au code du silence dans le meurtre de Lacon MacDonald par un policier. Elle a annoncé un plan en juin 2019 pour réorganiser les services de police de la ville et mettre dans la rue plus d'officiers de police de proximité. Elle a également licencié le surintendant de la police, Eddie Johnson, pas pour des faits de violence, pour avoir menti, en fait. Je crois qu'il a été retrouvé endormi dans sa voiture. Et elle a également annoncé un nouveau programme de lutte contre la criminalité dans les transports publics. Alors évidemment, tout ça a été ralenti par la pandémie. Après les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, elle s'est clairement jointe à la requête de la coalition des mouvements pour les droits civiques pour une enquête sur la façon dont la police de Chicago faisait face aux manifestations qui avaient suivi le décès de George Floyd.
Oui, donc on comprend que le contexte de crise sanitaire a un peu ralenti les choses, mais que quand même, elle a lancé un certain nombre de transformations et qu'il y a eu une forme de rupture sur cette question des violences policières. En tout cas, on ambitionne effectivement d'opérer une véritable transformation. Si on regarde du côté de San Francisco, Sonia Lehmann-Frisch, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. En tout cas, les niveaux de violence à San Francisco n'ont rien à voir avec ceux qui existent du côté de Chicago, qui porte ce terrible surnom de la capitale du crime. Est-ce que pour autant, la question des inégalités raciales était présente, très présente dans la campagne de London Breed? Et du coup, si c'est pas sur les questions des violences policières, sur quoi justement portaient ces enjeux de campagne? Je parle en matière, une fois encore, d'inégalité raciale. Sonia Lehmann-Frisch.
Oui. Alors non, San Francisco effectivement n'a pas les mêmes niveaux de violence que Chicago, mais elle a traversé aussi des phases difficiles de violence autour de l'activité des gangs, notamment à la fin des années 90, et qui ont eu tendance en réalité à décliner ces dernières années. Mais cette baisse de la violence était finalement aussi un signe d'inégalités socio-raciales croissantes, puisque c'est à mettre aussi en lien avec la gentrification de la ville, c'est-à-dire avec l'arrivée de plus en plus importante de populations aisées et blanches. Donc ça, c'était la première chose quand même à retenir. Et puis alors la deuxième chose importante, c'est effectivement, c'est pas du tout sur cette plateforme que London Breed a été élu. En revanche, un de ses engagements de campagne et puis sa position en tant que maire, ça a été de promouvoir la construction de logements. Et de fait, le logement, c'est le problème numéro un à San Francisco. C'est pas du tout nouveau, hein, ça a commencé dès la fin des années 80. Mais ça a cru sans cesse depuis la fin des années 80, mais pas de manière linéaire. C'est-à-dire que ça s'est régulièrement accentué dans les périodes de prospérité économique qui prennent la forme de véritables booms économiques, bien souvent en lien avec les activités du secteur high-tech à San Francisco. Vous savez qu'on est tout près de la Silicon Valley et que la Silicon Valley, en quelque sorte, a débarqué de manière très 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 prégnante à San Francisco ces toutes dernières années. Donc un problème ancien,
faisant exploser les loyers.
Faisant absolument exploser les loyers, c'est-à-dire que même les jeunes employés des high-tech ont désormais du mal à se loger au point de devoir partager des logements très souvent. Donc sa plateforme de campagne, c'était voilà, on va s'attaquer à ce problème de logement et on va construire de nouveaux logements. Et peut-être un dernier petit élément important pour comprendre ce problème de logement à San Francisco. Donc pourquoi un tel challenge? Ben la première chose, c'est que c'est une petite ville. C'est une petite ville sur le territoire tout à fait équivalent à Paris, à peu près sur 10 km sur 10 km, environné par la mer. Donc ça fait bien longtemps que les territoires à développer, les terrains à développer, n'existent plus en quelque sorte. Et puis deuxièmement, c'est une ville qui depuis des décennies veut préserver son caractère, comme on dit localement, préserver ses paysages. Elle est parfaitement consciente à la fois de son attrait touristique, mais aussi de son attrait en termes de style de vie, de ses maisons, ses maisons victoriennes et autres, qui expliquent une densité relativement faible, bien que, à l'échelle des États-Unis, San Francisco soit l'une des villes les plus denses. Et puis, troisième chose qui explique cette crise du logement, la population à San Francisco, depuis les années 90, ne cesse d'augmenter. Ouais. Et aujourd'hui, avec seulement, j'allais dire, selon les standards français, seulement 840 000 habitants, San Francisco n'a jamais été aussi peuplé de son histoire.
Alors, voilà, donc je veux poursuivre avec vous, Sonia Lehmann-Frisch, sur cette question du logement, et ensuite on repassera du côté de Chicago avec vous, Laurence Gervais. Mais là, on est face à un problème majeur, vous l'avez dit, effectivement, c'est ces grosses entreprises du net qui ont fait augmenter les loyers, qui ont produit un phénomène de gentrification absolument dramatique. On a donc effectivement cette mère qui a l'air plutôt favorable à la construction de nouveaux logements, mais on a aussi une crise sanitaire qui est venue par-dessus, avec par ailleurs des mesures tout à fait inédites qui ont été prises concernant les sans-abri, puisque beaucoup ont été logés dans des hôtels, d'autres ont été mis dans des campements, et qu'on voit bien qu'il va falloir, maintenant que la crise sanitaire, on espère, va se calmer, on voit bien qu'il y a une nouvelle crise du logement qui va rejaillir, avec un nouveau paramètre qui est celui que ces fameuses entreprises du net vont de plus en plus permettre un télétravail qui va, a priori, pousser les gens qui habitent San Francisco à éventuellement la quitter parce qu'ils ont la possibilité de travailler de plus loin. On a là des conditions de cette crise du logement qui sont totalement bouleversées en réalité.
Oui, absolument. Alors, ça fait référence à plein de choses. D'abord, sur ce que vous dites sur le télétravail, c'est tout à fait juste et on commence déjà à observer. Et aux États-Unis, vous savez à quel point tout est plus rapide qu'en France, dans tous les sens du terme. La crise est plus rapide et puis le processus de recovery est aussi plus rapide. Et de fait, le télétravail a poussé un certain nombre d'entreprises à diminuer leur bureau et à résilier leur beau de bureau. La ville de San Francisco elle-même a indiqué à l'ensemble de ses employés, et la ville de San Francisco est le premier employeur de San Francisco, qu'il devrait travailler au maximum en télétravail jusqu'en juillet 2021. Hein, c'est vous dire l'impact que ça peut avoir, effectivement, sur l'immobilier du bureau. Et le lien que vous faites est très important entre cette attractivité économique et puis la question de la crise du logement, dans la mesure où, en effet, la dernière poussée de cette crise du logement est directement liée, à partir de 2011-2012, à l'arrivée massive des entreprises des high-tech, qui jusque-là pouvaient éventuellement naître à San Francisco, mais dès qu'elles atteignaient une certaine taille, allaient s'installer dans la Silicon Valley. Mais à partir de 2011-2012, elles ont commencé, et Twitter est la première d'entre elles ont commencé à rester à San Francisco, invité en cela par une politique très volontariste du maire de l'époque, Ed Lee, dans la continuité duquel London Breed se place aujourd'hui, qui souhaitait retenir ces entreprises des high-tech. Ce qui signifiait que en ville, désormais dans une ville qui était déjà en problème de logement, cette ville devait accueillir de plus en plus d'employés, en général des jeunes, bien souvent blancs et la plupart du temps des hommes, mais pas que, et qui étaient payés à des salaires qui n'avaient rien à voir avec d'autres secteurs économiques, et notamment celui du tourisme, qui à San Francisco est un secteur économique très important.
Laurence Gervais, on repasse du côté de Chicago, hein. On fait ce jeu de miroir, ces allers-retours entre ces deux villes que vous connaissez particulièrement l'une et l'autre. Peut-être pouvons-nous nous attarder sur la question de l'enseignement, parce qu'évidemment les inégalités socio-raciales, vous nous avez dit tout à l'heure que Lori Lightfoot a fait engager déjà le chantier de la réforme de dispositifs policiers. S'agissant de l'enseignement, qui est aussi évidemment évidemment un vecteur par lequel on produit des inégalités socio-raciales. Quel est le projet de Lori Lightfoot, sachant qu'il faudra revenir aussi sur ce qui a été fait au niveau fédéral? Barack Obama avait engagé un certain nombre de choses, et notamment un grand programme pour lutter contre les inégalités raciales à l'école, sauf que visiblement ça n'a peut-être pas eu les effets escomptés du côté de Chicago. Mais d'abord, sur le projet initial de Lightfoot, quel était-il, quel est-il?
Alors, ces inégalités sociales et raciales dont on parle sont très ancrées dans le territoire à Chicago. C'est-à-dire que c'est la ville où la ségrégation est la plus forte après Détroit et avant Memphis, et ça n'est pas quelque chose de nouveau, et donc ça implique que le système d'école publique est complètement lié à ces inégalités dans le territoire. On va avoir des écoles avec de moins bons résultats dans les quartiers pauvres, dans les quartiers défavorisés, et ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et lorsque Rahm Emanuel, donc le prédécesseur de Lori Lightfoot, était en poste, c'est-à-dire dans la période 2008-2012, Chicago était à ce moment-là en train de devenir le terrain d'essai des réformateurs du système éducatif, avec un programme qui s'appelait Chicago Renaissance, et qui était censé, à l'horizon 2010-2012, régler ces problèmes d'inégalité au sein de l'école publique entre quartiers. Comment est-ce que le problème devait être réglé? En fermant les écoles les moins performantes, en les soumettant aux tests de niveau des États et en remplaçant ces écoles moins performantes par des charter schools, donc des écoles publiques en partenariat avec des acteurs privés sous contrat avec la ville. Et c'est ce système, ce programme Chicago Renaissance qui a été le modèle du programme Race to the Top du gouvernement Obama. Race to the Top, c'est tout à fait inspiré de Chicago Renaissance. Le problème étant que sur le terrain, la ville de Chicago fermait de plus en plus d'écoles dans les quartiers pauvres et défavorisés pour cause de mauvais résultats, et que ces fermetures ont eu pour conséquence une colère grandissante des enseignants contre la mairie et ses expériences, mais aussi contre leur propre syndicat qui était tout à fait incapable de défendre le système d'éducation publique selon eux. Donc c'est ce qui a déclenché les grèves des enseignants, grèves massives en 2012, puis à nouveau en 2017. Et lorsque Lori Lightfoot est arrivée, elle a été confrontée de nouveau à ce problème qui n'était pas réglé. Et en octobre 2019, la bataille des enseignants a été à nouveau centrée autour des questions sociales, c'est-à-dire par exemple l'arrêt de la diminution des tailles des classes, l'augmentation du nombre de bibliothécaires et d'infirmières, etc. Alors pour l'instant, Lightfoot semble avoir réglé en partie le problème et le conflit. Elle a signé un accord de 1,5 milliard de dollars avec le syndicat des enseignants pour transformer les écoles publiques de Chicago. Donc reste à savoir si l'accord tiendra et si l'histoire se répétera ou non, puisque Rahm Emanuel, effectivement, jusqu'au bout de son mandat, était poursuivi par ce problème.
Oui, il y a évidemment donc c'est ce défi de l'enseignement du côté de Chicago. Il y a le défi des violences policières et des violences plus généralement. Il y a un autre défi qui est lié au logement avec ces quartiers fantômes qui se pérennisent malheureusement du côté de Chicago. On va en parler dans un très court instant. On était avec vous Laurence Gervais et vous Sonia Lehmann-Frisch dans cette série consacrée aux villes rebelles de Chicago à San Francisco. Nouveau visage de l'Amérique. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde. Florian Delorme.
Ces maisons vides, saisies ou abandonnées, posent beaucoup de problèmes dans un quartier comme celui-là. Les gens ont perdu leur maison et pour beaucoup, c'était leur premier achat. Ils avaient juste assez pour acheter la maison. Et du coup, s'ils perdent leur travail, ils se retrouvent fauchés et ils partent. Et les gangs les remplacent.
Voilà, extrait de ce documentaire, Chicago, vivre avec les gangs de Marc Garmirian et Étienne Truchot. On va parler justement donc de ces quartiers fantômes de Chicago, de l'impossible réhabilitation de ces quartiers. Bonjour Florence Nussbaum.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, enseignante à l'Université Paris Diderot. Vous êtes intéressée à plusieurs localités suburbaines en plein déclin dans l'aire métropolitaine de Chicago, dans la partie sud du comté de Cook en particulier, avec donc ces quartiers entiers touchés par la vacance résidentielle. C'était le sujet de votre thèse. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces quartiers, nous expliquer comment ils se sont retrouvés touchés par ce phénomène de logement vacant? Est-ce que la crise des subprimes, dont on a énormément parlé, suffit à expliquer ce phénomène ou il y a aussi autre chose de plus profond, Florence Nussbaum?
Oui, alors j'ai surtout étudié l'intérieur de Chicago, en fait. Je me suis aussi intéressée aux localités suburbaines, mais l'essentiel de ce phénomène de déclin et d'abandon touche l'intérieur de Chicago, les quartiers afro-américains du West Side et du South Side. Et effectivement, c'est un phénomène qui est en fait beaucoup plus ancien que la crise des subprimes, qui a été aggravé par la crise de subprime, mais qui date en fait de la désindustrialisation de Chicago, comme beaucoup de villes du nord-est des États-Unis, à partir des années 60, 70 surtout, puisque Chicago a perdu un quart de sa population depuis 1950. Et en fait, c'est surtout ces quartiers-là qui se sont vidés, les quartiers aujourd'hui majoritairement afro-américains, en périphérie immédiate, assez proche du centre. Et ça touche effectivement aussi des quartiers périphériques, puisque vous avez des suburbs, des banlieues au sud de Chicago, qui sont des banlieues anciennement afro-américaines, industrielles, où la fermeture successive des différentes usines, de tracteurs, de sidérurgie, a placé ces quartiers dans des situations terribles. Et ne reste que ceux qui ne pouvaient pas partir ailleurs. Et donc, ça a entraîné une paupérisation de cette population afro-américaine et une première vague d'abandon des logements. En fait, les premières démolitions dans ces quartiers qui, aujourd'hui, comme Englewood, comme Austin, etc., comportent énormément de friches. En fait, c'est des démolitions qui ont lieu déjà dès les années 90.
Et la grande question, Florence Nussbaum, c'est pourquoi est-ce qu'il reste encore autant de logements vacants? Il y en a beaucoup qui ont été démolis, mais beaucoup sont encore sur pied, et c'est aussi quelque chose qui permet, effectivement, et c'est ce que nous disait un peu l'extrait qu'on a diffusé, de permettre à des groupes criminels de s'installer et d'encore aggraver la situation. Donc comment se fait-il que c'est... On comprend très bien que c'est des logements qui ont été abandonnés par des habitants qui n'avaient plus les moyens de payer leur loyer, de payer leur crédit. Mais pourquoi ces logements sont encore vacants aujourd'hui? Ils auraient pu être soit détruits, soit réhabilités. Comment se fait-il qu'ils sont encore là, comme ça?
Alors, c'est tout l'enjeu. C'est qu'en fait, il y a deux raisons principales, je dirais. C'est que d'une part, la mairie, la ville n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de projet de réhabilitation, parce que ça représente des quantités importantes. Il y a, on évalue à 55 000 le nombre de logements vacants dans le comté de Cook, donc qui englobe Chicago et quelques localités autour. Donc 55 000 logements vacants, c'est trop pour les ressources de la ville de Chicago, qui n'est pas capable de gérer ce problème. D'autant que dans la société américaine, c'est pas forcément à la ville d'intervenir. C'est au marché de régler les choses. Deuxième problème, c'est la spéculation immobilière, qui s'est aussi accru avec la crise de 2008, puisque les maisons saisies par les banques ont été revendues à des investisseurs, notamment dans le cadre de ventes aux enchères, où on vendait des lots de propriétés pour 5 000 $ une maison, par exemple. Et donc, ces investisseurs ont acheté ces maisons très peu chères et ils empêchent l'investissement par des ménages qui... eux n'ont pas accès à ces ventes aux enchères et ensuite la spéculation.
Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait, ces logements? J'entends, les spéculateurs achètent. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font de ces logements?
Ah bah, il y a plein de stratégies pour faire de l'argent avec une maison vide.
Lesquelles?
Soit elles sont louées, c'est ce qu'on appelle en France les marchands de sommeil. Elles sont louées à des tarifs assez rentables, puisqu'elles ne coûtent rien en termes d'entretien, de taxes, etc. Donc, finalement, dans une ville où le logement abordable est très insuffisant, eh bien, il y a une demande de la part des ménages pauvres d'accéder à des logements. Donc, c'est des logements très dégradés qui sont loués à ces ménages-là. Ou alors, il y a différentes stratégies de revente à d'autres investisseurs. Puisque, voilà, quand vous achetez une maison 5 000 $, si vous la revendez 10 000, ça reste une affaire pour celui qui a l'impression de faire une affaire en achetant, mais vous avez fait une plus-value de 30%.
Ouais. Et quand vraiment vous pouvez rien en sortir, vous transférez vos titres de propriété, comme c'est arrivé avec ce shérif d'un comté qui a découvert comment une société d'investissement avait tout simplement transféré des titres de propriété à un sans-abri. Voilà, on s'en débarrasse.
Voilà, on s'en débarrasse. En fait, on achète tellement de propriétés que dans le lot, il y en a qui sont rentables. On arrivera à les retaper un petit peu, à les revendre à un ménage pour 200 000 $, enfin, qui va avoir l'impression que c'est une maison en bon état, alors qu'en fait, on a juste mis un peu de peinture. Dans le lot, effectivement, il y en a qui ne seront pas rentables parce qu'il y a des dettes, parce qu'elles sont vraiment trop en mauvais état. Et donc, celles-là, on les abandonne, en fait. C'est un jeu de un calcul avec des risques. Donc, celles qu'on abandonne, effectivement, il faut soit disparaître pour ne pas risquer d'être rattrapé par les autorités, donc avec des sociétés écrans qui permettent de ne pas être repéré, ou effectivement des transferts de titres de propriété. Bon, ça, c'est un cas un peu... Enfin, c'est pas si fréquent, mais oui, une société qui a transféré 6 maisons à un SDF. Alors, inhabitable, évidemment.
Alors, comment on fait maintenant, Florence Nussbaum? On parlait depuis tout à l'heure de Lori Lightfoot, donc cette maire élue l'année dernière. Est-ce qu'elle a un programme, un projet pour répondre justement à cette crise du logement, un programme de réhabilitation, un programme de destruction, pourquoi pas, de ces logements vacants? Ou est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, elle considère elle aussi, comme d'autres, que finalement c'est au marché de faire son travail et que tout va finir par retrouver un équilibre par le truchement de la loi de l'offre et de la demande?
Elle fait ce qu'elle peut, dans le sens où l'argent disponible à Chicago pour démolir vient de l'État fédéral. En fait, c'est des grants, des financements ponctuels qui sont accordés par l'État aux différentes villes pour démolir. Et donc, ça, c'est des fonds qui ne se renouvellent pas, donc elle n'a pas...
Donc elle n'a pas la main sur les fonds pour détruire les logements vacants.
Ouais. Non, voilà, la ville ne dirige pas. Enfin, elle peut choisir comment elle alloue ses financements, mais ils sont accordés par l'État fédéral.
Alors quelle est sa marge de manœuvre à elle sur la question du logement?
Sur la question du logement, elle est assez limitée, c'est-à-dire que finalement là, elle essaye justement de mener une politique d'encouragement du logement abordable. C'est-à-dire en obligeant ceux qui construisent des logements à avoir une proportion plus importante de logements accessibles à des ménages qui ont un revenu inférieur au revenu médian. Depuis quelques années, c'était 10% la norme. Si un promoteur demandait l'aide de la municipalité, il devait construire 10% de logements abordables. Lori Lightfoot essaye de monter cette marge à 30%, mais évidemment, elle a un fort... la réaction des promoteurs est très très forte, donc pas sûr qu'elle y arrive. Et elle a aussi un programme spécifiquement dédié aux friches dans les quartiers dégradés qui s'appelle Ground for Peace, où contrairement à Rahm Emanuel, en fait, qui précédemment avait un programme Large Lot qui visait plutôt à débarrasser la ville de toutes les friches qu'elle possédait. Une fois que la ville a démoli une maison, elle peut devenir propriétaire du terrain. Donc, lui, il avait des milliers et des milliers de friches en sa possession, dont elle ne savait que faire. Rahm Emanuel essayait de s'en débarrasser, il les avait offerts à la vente. Lori Lightfoot a plutôt essayé de lancer ce programme Ground for Peace, qui, dans 3 quartiers, vise à former et à réinsérer nos anciens détenus par l'organisation de jardins communautaires sur les friches possédées par la ville.
Ouais, alors on comprend, Florence Nussbaum. Je voudrais peut-être faire réagir Laurence Gervais, qui connaît particulièrement bien Chicago, et puis Sonia Lehmann-Frisch, pour peut-être faire un jeu de miroir avec San Francisco. On voit bien, Laurence Gervais, qu'il y a effectivement des initiatives qui sont prises ça et là, mais qu'en réalité, la maire de Chicago n'a pas une marge de manœuvre colossale pour essayer de répondre à cette crise du logement.
Oui, d'autant plus que Chicago est très endetté. Lori Lightfoot doit également faire face à cette dette qui est euh, qui est de plus de 34 milliards de dollars. C'est la ville la plus mal classée des États-Unis sur les 75 plus grosses villes. L'un des leviers qu'elle peut avoir, c'est le système de TIFs, qui est un système d'aide de la municipalité aux aménageurs, aux promoteurs immobiliers, auxquels la taxe foncière sera reversée pendant un certain temps s'ils s'engagent à construire et à rénover des quartiers qui sont déclarés en danger ou en zone de type, donc notamment ces friches industrielles. Il y a un programme à Lincoln Yards et un autre qui est donc plutôt vers le nord et un autre dans le South Loop qui est 78. Mais on se rend compte quand même que ces quartiers sont plutôt au nord, ne sont pas forcément là où il y a le plus de besoins. Ce sont effectivement des friches industrielles, des endroits où il n'y a pas énormément de résidentiels. Il s'agit de construire de résidentiels et également des logements abordables, un pourcentage plus élevé.
Du côté de San Francisco, Sonia Lehmann-Frisch, évidemment la situation est très différente. D'abord, on n'a pas la dette qu'il y a du côté de Chicago. On a des entreprises qui se portent très bien. On n'est pas dans la désindustrialisation comme c'est du côté de Chicago. Et en même temps, le pouvoir en réalité de la maire n'est pas colossal non plus. Alors, soit, vous le disiez tout à l'heure, elle est plutôt encline à l'étalement urbain et considère que oui, il faut agrandir la ville. Et en même temps, elle n'a pas non plus la main mise sur ces décisions, Sonia Lehmann-Frisch.
Alors effectivement, la question du logement se pose en des termes très très différents à San Francisco, où il n'y a pas de vacances, et c'est ça le problème, il n'y a pas de logement vacant depuis très longtemps, et moins que jamais pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. La maire, elle ne cherche pas à agrandir la ville, puisqu'elle peut pas pousser, les frontières de la ville ni l'océan, puisque San Francisco est sur une péninsule. En revanche, alors, San Francisco est quand même l'une des villes des États-Unis où le marché du logement est le plus spécifique, et notamment, c'est près de la moitié de son stock de logements qui sont en dehors des prix du marché, qui sont protégés par différentes mesures, dont certaines émanent de la ville de San Francisco, et notamment c'est ce qu'on appelle le rent control, le contrôle des loyers qui est en vigueur depuis plusieurs décennies déjà. Mais à côté de ce contrôle des loyers qui empêche les propriétaires d'augmenter leur loyer à leur guise, ils peuvent pas le faire sauf entre deux locataires, ou alors si ils réinvestissent la maison pour l'habiter eux-mêmes, mais en dehors de ça, voilà, enfin il y a encore plein de formes de logements aidés qui sont pas forcément pris en charge par la ville de San Francisco. Certains sont pris en charge, et c'est ce qu'on appelle le public housing, c'est-à-dire le logement social pris en charge par des financements fédéraux, et c'est d'ailleurs de là que vient London Breed elle-même, c'est-à-dire qu'elle a grandi dans un logement social du quartier noir, bien célèbre pour cela, à San Francisco, qui s'appelle Western Addition. Donc elle a vécu elle-même dans ces conditions très particulières. Et puis il y a encore d'autres formes de logement aidé qui sont pris en charge par des associations. Et je voudrais peut-être dire un truc quand même assez intéressant, c'est que la ville de San Francisco a aussi fait passer, chaque année, il y a des référendums locaux qui sont passés, et est passé récemment et de manière récurrente une loi ou un décret qui oblige les constructeurs, les promoteurs immobiliers à soit réserver une part de leur logement, nouveau logement construit, à des populations désavantagées, soit à contribuer à un financement local de manière à mettre la main en pot, en quelque sorte, en donnant de l'argent qui sera ensuite utilisé par des associations locales pour construire des logements aidés.
C'est respecté ?
Ah, c'est respecté. Ouais, d'accord. C'est tout à fait respecté.
Merci beaucoup Florence Nussbaum qui était avec nous à l'instant par téléphone. On va retrouver un autre invité pour parler du community organizing, parce que si évidemment l'élection de maire afro-américaine à Chicago ou San Francisco revêt une importance symbolique pour les communautés noires de ces villes, ces dernières ne comptent pas toujours sur elles pour représenter leurs intérêts, et plus que des élus noirs, c'est sur le community organizing que comptent les Afro-Américains pour faire triompher leurs revendications sur le plan local. Bonjour Julien Talpin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous êtes intéressé à cette question des community organizing. Vous aviez écrit un ouvrage sur ce sujet. On avait eu d'ailleurs l'occasion d'en parler ensemble à ce même micro. Vous reveniez dans votre ouvrage community organizing sur l'émergence de ces entités dans les années 30 du côté de Chicago, justement. Aujourd'hui, on a à peu près dans toutes les villes des États-Unis, avec des millions de personnes qui sont engagées précisément dans ces groupes. D'abord, un tout petit peu de pédagogie rapidement, mais c'est important, Julien Talpin. Vous nous rappelez comment, à l'époque, un certain Saul Alinsky imagine cette méthode de mobilisation, les principaux piliers de cette stratégie qui a été le principal canal de politisation des classes populaires. C'est très important, Julien Talpin.
Tout à fait. Alors, le community organizing, c'est principalement des associations qui ont émergé dans les quartiers pauvres des grandes métropoles américaines, d'abord à Chicago, puis ça va s'étendre un peu partout aux États-Unis, avec l'idée que les intérêts des classes populaires ne sont pas très bien défendus par les partis politiques, y compris par le Parti démocrate, et que pour que ces intérêts soient entendus, il faut s'organiser collectivement à partir donc de la communauté du quartier pour à la fois résoudre ici et maintenant les problèmes quotidiens des habitants, par exemple liés au logement, pour faire référence aux discussions précédentes, mais également pour porter les revendications, créer un rapport de force aussi avec les institutions et les élus locaux pour faire entendre ces demandes. Alors le lien avec les élus est ambigu, c'est-à-dire que d'un côté, beaucoup de demandes passent par des mobilisations, des manifestations, des pétitions, mais il y a aussi l'idée qu'il est possible de créer des alliances avec ces élus, puisqu'un certain nombre d'entre eux, le plus connu étant Barack Obama, sont passés par ces organisations communautaires qui constituent un peu des écoles de formation des élites politiques minoritaires aux États-Unis.
Mais est-ce que c'est une exception? Évidemment, vous faites référence à Barack Obama, le plus connu des community organizers. Mais est-ce que son parcours, c'est en réalité une exception? Ou est-ce qu'effectivement, ce sont de bons tremplins assez efficaces pour se lancer en politique?
Alors effectivement, il y en a beaucoup d'autres. La figure d'Obama est la plus connue. Ocasio-Cortez, dont on a pas mal entendu parler également ces dernières années, l'élu de New York, est également passé par des organisations de ce type, et il y en a beaucoup d'autres dans la politique locale. Une des raisons est aussi que, à la différence des partis politiques en France, au fond, les partis aux États-Unis, y compris le Parti démocrate, puisque c'est quand même plutôt des organisations progressistes, les partis politiques aux États-Unis sont un peu des coquilles vides qui se mettent en branle au moment des élections, qui sont fréquentes aux États-Unis, mais qui ne sont pas du tout, comme en France ou en Europe, des espaces de formation politique de la jeunesse. Et donc, beaucoup de jeunes diplômés issus de quartiers défavorisés font leurs armes, d'une certaine façon, sur le terrain, de cette façon-là, se professionnalisent, et puis au bout d'un moment, une partie d'entre eux, c'est un peu usant, ça passe beaucoup par le porte-à-porte, un travail de terrain, et donc s'investissent dans des formes de politique plus institutionnelle.
Et alors, Julien Talpin, si l'on essaye d'inscrire ce phénomène de community organizing dans le contexte actuel, et en particulier de ce contexte des colères liées aux violences policières à l'égard des Afro-Américains, comment interpréter l'émergence d'autres entités mobilisantes comme Black Lives Matter? C'est pour le coup là une entité, une organisation globale, transversale. Est-ce que elle a émergé, Black Lives Matter, ce mouvement a émergé parce que précisément, bien peut-être que les community organizing ont été un peu débordés par cette question de la gestion des colères liées à ces violences? Comment vous interprétez les choses?
Alors, vous avez raison de dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que quand le mouvement Black Lives Matter émerge en 2014-2015, et puis on voit d'une certaine façon se prolonger jusqu'à aujourd'hui, ça relève plutôt de ce qu'on pourrait appeler un mouvement social, en fait assez classique, différent de ce que sont les organisations communautaires, qui sont des associations plus pérennes. Néanmoins, il y a des liens, puisque il y a quand même une partie de revendications communes, et aujourd'hui, on retrouve dans les manifestations qui sont organisées contre les violences policières et le racisme dans toutes les grandes villes, donc on retrouve à la fois des gens qui sont peut-être plus radicaux, issus du mouvement Black Lives Matter ou d'autres mouvements sociaux d'extrême gauche, pour le dire comme ça, et des organisations peut-être un peu plus centristes, même si le terme est probablement impropre, à leur côté. La différence peut-être, c'est que les organisations communautaires sont convaincues que pour faire faire avancer la cause des quartiers populaires, il faut faire des propositions concrètes. Il faut avoir des avancées ici et maintenant, et que les revendications globales sur la fin du racisme systémique, c'est probablement nécessaire, mais qu'en même temps, il faut proposer ici et maintenant, par exemple, c'est tout à fait au cœur du débat aujourd'hui dans de nombreuses villes, la Defund Police, donc diminuer les financements des polices municipales en particulier, pour investir dans les services sociaux, dans l'éducation, pour réorienter les budgets et les priorités municipales. Et donc, il y a une dimension plus concrète, quand bien même il y a des liens entre ces organisations communautaires et les mouvements comme Black Lives Matter.
Julien Talpin, tout dernier mot, la liaison n'est pas parfaite, mais enfin, on comprend à peu près ce que vous nous dites, heureusement. Mais Barack Obama, il a fait évidemment les louanges de ce système de mobilisation très, très local, mais est-ce que, au-delà des louanges, il a fait des actions concrètes pour justement favoriser le développement de ce type de mobilisation, ou en réalité, quand on regarde un peu les choses, et quand on regarde les choses, c'est les budgets, hein, parce que c'est ça, hein, l'action politique, souvent. Est-ce que c'est pas si clair que ça ?
Pas directement, dans le sens où ces organisations sont principalement financées et soutenues par des fondations philanthropiques privées qui sont très importantes aux États-Unis. Obama a surtout contribué à, au fond, mettre les projecteurs sur ces pratiques anciennes et qui passaient souvent sous le radar. Néanmoins, peut-être un dernier mot, peut-être souligner aussi que l'expérience de la présidence Obama a un peu transformé aussi le rapport de ces organisations communautaires au pouvoir noir, y compris au niveau local, avec l'idée qu'il n'est peut-être pas suffisant de parvenir au pouvoir et de faire parvenir des minorités au pouvoir, et que si l'on n'exerce pas une pression accrue tout au long du mandat, il n'est peut-être pas certain que les intérêts des minorités seront parfaitement entendus et se traduiront par des politiques publiques concrètes. Donc il y a toute une réflexion un peu sur les limites de la présidence Obama qui irrigue aujourd'hui les mouvements sociaux et le community organizing aux États-Unis.
Merci beaucoup Julien Talpin. Je rappelle que vous aviez écrit « Community Organizing de l'émeute à l'alliance des classes populaires aux États-Unis ». C'était paru aux éditions Raison d'agir.
Dreamed about killing you again last night, and it felt all right to me. Dying on the banks of Embarcadero skies, sat and watched you bleed. Buried you alive in a fireworks display, raining down on me. Your cold hot blood ran away from me to the sea.
Que c'est bon ce morceau qui nous a été sélectionné par Benjamin Hu via Chicago, Jeff Tweedy, des références qu'on pourra retrouver bien sûr sur la page de Culture Monde. Un grand merci à nos deux invités, Sonia Lehmann-Frisch et Laurence Gervais. Vos ouvrages également à retrouver sur la page de Culture Monde, Sociologie de San Francisco et également La privatisation de Chicago. Merci infiniment. On poursuivra demain notre série consacrée aux villes. On parlera de quelques villes turques dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.